au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Savez-vous que Bonaparte avait appartenu à ce qui deviendra l'Académie des sciences ? Il avait été élu membre résident de la première classe de l'Institut national des sciences et des arts dans la section des arts mécaniques. C'était le 5 niveaux en 6, c'est-à-dire, comme vous le savez, le 25 décembre 1797, président de la classe pour le deuxième semestre de l'an 8. Sa place a été déclarée vacante le 10 avril 1815 sur l'invitation du ministre de l'Intérieur qui fait connaître à la classe que l'empereur a reconnu l'inconvénient qu'il y a de laisser vacante dans la section de mécanique de la première classe de l'Institut la place que Sa Majesté est obligée de laisser inactive de fait. Sa Majesté tient cependant à l'honneur d'avoir dû cette distinction scientifique comme simple particulier au suffrage de ses anciens collègues, mais aujourd'hui, en sa qualité d'empereur, le titre de protecteur de l'Institut est celui qu'il convient de donner dans les listes qui seront imprimées, sans oublier d'y rappeler qu'il a été élu le 5 niveaux en 6. Voilà pour Bonaparte, Napoléon, mais deux autres membres de la famille Bonaparte appartenaient aussi à l'Institut de France, Bonaparte Lucien, prince de Canino, qui avait été élu correspondant de l'Académie des sciences dans la section d'anatomie et de zoologie, et puis Joseph Bonaparte, qui lui appartenait à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Mais aujourd'hui, c'est dans cette émission du grand Bonaparte que l'on va parler, à l'occasion de la sortie du hors-série du Figaro consacré à Bonaparte en Égypte, Feu et Lumière. Et j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Schmitt, qui est membre de la rédaction de ce numéro hors-série du Figaro. Et c'est un magnifique numéro, Isabelle. Comment est-il composé ? Bonjour tout d'abord.
Bonjour Hélène, merci de me recevoir. Ce numéro est sorti à l'occasion de l'exposition de l'Institut du monde arabe et en fait a pris le parti d'essayer de restituer un peu de la richesse de l'expédition d'Égypte en adoptant toujours une partie visuelle au départ, ce qu'on appelle les images, et qui propose en fait cette fois-ci une comparaison systématique entre les planches de la description de l'Égypte, sur lesquelles on reviendra, et puis des photos actuelles de l'Égypte.
Ça, c'est votre parti d'ailleurs, Isabelle. Vous êtes chargée de l'iconographie.
Je suis chargée de l'iconographie. Et ça a été un travail assez amusant parce que nous avons essayé vraiment de comparer des vues de la description de l'Égypte avec des photos actuelles. Évidemment, on peut bien s'imaginer que le Caire et ses environs ont bien changé tout de même en plus d'un siècle.
Mais les monuments, pas tellement, finalement.
Les monuments, pas tant que cela. Et surtout, l'ambiance et les couleurs sont restées à peu près identiques.
Donc, ça commence par une section image magnifique qui fait plaisir aux yeux. Et après, alors, on s'informe, je suppose.
Et après, on s'informe, apprend. Exactement.
Grâce à Irina de Chikov.
Grâce à Irina de Chikov, qui est une de nos plumes favorites, qui était grand reporter au service étranger du Figaro et qui a brossé l'épopée de l'expédition d'Égypte en 12 journées.
Ça, c'est la caractéristique des hors-séries du Figaro. 12 journées pour, au fond, couvrir l'ensemble du sujet.
Voilà, enfin, couvrir,
presque,
en tout
presque.
Cas évoquer de la manière la plus, à la fois la plus complète possible et la plus agréable possible à lire, puisqu'on est conscient qu'un article fleuve de 40 pages pourrait décourager certains lecteurs, alors que 12 journées assez courtes, mais qui résument toute une période.
Et toujours bien illustrées aussi.
Sont plus attrayantes. Et on a effectivement essayé de les illustrer à chaque fois, donc avec en pleine page. Alors là, l'originalité est qu'on a fait. Nous avons utilisé les très belles illustrations de Job pour certaines journées. Il en existe deux, je crois, si je ne me trompe pas, sur l'expédition d'Égypte. Mais pour les autres, nous avons fait appel à un illustrateur qui a imité le style de Job et donc qui a créé des faux Job pour illustrer ces fameuses journées. Ah oui, on l'avoue. Et on rend à Job tout l'hommage qui lui est dû.
Alors, quelles sont ces 12 journées ?
Alors, les 12 journées, eh bien, elles résument les dates clés de cette expédition d'Égypte qui débute en fait le 12 avril 1798, date à laquelle Bonaparte est officiellement envoyé par le directoire en Égypte. Les directeurs étant bien contents de se débarrasser d'un héros militaire un peu trop encombrant à leur goût.
Il ne savait pas très bien où il allait être envoyé, je crois. C'était gardé secret, non ?
Alors, lui savait, mais il a gardé ça secret pour tout l'équipage, y compris pour les scientifiques qu'il a embarqués, c'est le cas de le dire, avec lui. Mm-hmm. Et ça fait partie aussi de l'aura de cette expédition, puisqu'en fait, les soldats, l'équipage et les scientifiques et les savants savaient qu'ils partaient à l'aventure, mais ils ne savaient pas où. La destination était tenue secrète, également aussi pour ne pas alerter les Anglais, qui avaient beaucoup d'intérêt en Égypte, et qu'il convenait de ne pas informer trop à l'avance.
Alors on s'est bagarré, je suppose aussi, il n'y a pas eu que le côté scientifique.
Il n'y a pas eu que le côté scientifique.
D'ailleurs, il y a des grandes batailles.
Les chiffres sont très évocateurs, puisque finalement, il y avait plus de 30 000 soldats avec 17 000 hommes d'équipage pour 160 à 180 savants. Les savants sont très importants, mais numériquement, c'est évidemment l'armée et les militaires qui prédominent. Alors, évidemment, la bataille la plus, celle qu'on a tous en tête quand on parle de l'expédition d'Égypte, c'est la bataille des pyramides, qui est évoquée dans la journée du 21 juillet 1798, et donc qui retrace un peu le tableau des 50 000 mamelouks qui apparaissent tout à coup dans le désert, sur fond de pyramides au loin, devant les soldats de Bonaparte totalement hypnotisés. Il faut dire que cette bataille des pyramides, a non seulement été une victoire militaire totale, mais également une victoire morale attendue par Bonaparte pour redynamiser ses troupes. Parce que la traversée du désert s'est avérée très pénible, ça ne nous surprend pas, mais il ne s'attendait certainement pas, ni Bonaparte ni ses hommes, à des conditions climatiques aussi rudes, la chaleur, les insectes, les moustiques, etc. Et donc plusieurs soldats sont tombés malades. Certains, je crois, ont même péri dans cette traversée, avant toute bataille. Et donc cette victoire des pyramides sera un grand symbole de choses possibles à faire dans ce pays, et puis fera partie évidemment du mythe, puisqu'on raconte encore aujourd'hui que Bonaparte serait monté en haut des pyramides pour prononcer son discours.
Fameux. Bien sûr.
Voilà, du haut de ces pyramides, les siècles vous contemplent, etc.
Voilà, pyramides, bataille des pyramides, mais aussi désastre d'Aboukir.
Et oui, le désastre d'Aboukir, parce que les Anglais ont su tout de même attendre que l'armée française débarquait et ont profité du fait que la plupart des soldats français étaient à terre pour attaquer leur flotte. Et donc, le 1er août 1798, la flotte anglaise coule l'essentiel des bateaux français, avec notamment le bateau qui contenait tout le matériel scientifique. Ce qu'on ne sait pas souvent quand on parle de l'expédition d'Égypte des scientifiques, c'est que tout leur matériel, tous leurs ustensiles, que ce soit l'ustensile des géographes, des mécaniciens, etc., tout cela a coulé lors du désastre d'Aboukir. Et donc, c'est le fameux Nicolas Conté, qui était un ingénieur surdoué, qui a reconstitué tous les appareils et tous les ustensiles des scientifiques pour leur permettre de faire leur travail.
Alors, Aboukir, c'est d'abord un désastre, mais après, c'est une revanche. C'est d'abord pas tout à fait de la même façon.
Non, effectivement, c'est une revanche quelques mois après, le 25 juillet 1799, donc un an après, quasiment, où là, la victoire est totale et d'autant plus importante.
Sur les Ottomans.
Sur les Ottomans. Et d'autant plus importante, justement, que le simple nom d'Aboukir était encore un échec cuisant. Et on a de cette victoire le fameux tableau qui est exposé au château de Versailles, de Le Jeune, qui illustre donc cette bataille du 25 juillet 1799 et qui montre bien la fameuse bande de terre sur laquelle ont lieu les combats.
Alors on ne va pas évidemment retracer tous les événements de cette expédition d'Égypte, car ce n'est pas le propos dans cette émission, Isabelle Schmitt. Donc on a vu d'abord une section images dans cette hors-série du Figaro, puis les 12 journées d'une épopée, donc la section véritablement qui raconte les événements. Alors après, il y a une section qui s'intitule « Feu et lumière » et qui est ouverte par « La fuite en Égypte » par Jean Tullard de l'Institut, que nous connaissons bien sur Canal Académie. Alors « Feu et lumière », ce sont des spécialistes qui éclairent différents points de vue.
Voilà, ce sont des spécialistes qui développent en fait différentes sections de l'exposition de l'Institut du Monde Arabe qui est consacré à cette expédition d'Égypte, tout en essayant de mettre en perspective les causes, le déroulement et les conséquences de cette expédition. Et le papier de Jean Tullard est très éclairant et très amusant, puisqu'il commence sur une sorte de paradoxe. Sa première phrase est « Est-il entreprise plus absurde dans notre histoire que l'expédition d'Égypte ?» Voilà, le ton est donné. Et en fait, il explique dans tout son papier que finalement, aucun motif géopolitique n'a guidé cette expédition et que ce sont des raisons purement de politique intérieure qui font qu'en fait, le directoire a voulu éloigner Bonaparte, que Bonaparte a senti qu'il était encore trop tôt pour prendre le pouvoir et qu'il s'est cherché donc une part de gloire quelque part et qu'il a atterri là avec la complicité de Talleyrand. Et puis, bon, bien sûr, c'est nuancé ensuite par quelques intérêts économiques. Mais enfin, il explique que Jean Tullard nous explique que le motif officiel d'aller faire la guerre aux Anglais sur leur territoire était largement de la propagande et pas les raisons réelles.
Alors si vous voulez lire l'intégralité de ce texte de Jean Tullard qui quand même nous éclaire sur les véritables raisons de cette expédition d'Égypte, eh bien il faut acheter cette hors-série du Figaro, Bonaparte en Égypte, feu et lumière. On va dire aussi un mot, Isabelle, de l'exposition elle-même. Donc elle a lieu, comme vous l'avez dit, à l'Institut du monde arabe, à Paris. Elle se tient du 14 octobre 2008 au 29 mars 2009. Et je pense qu'elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi, et que l'Institut du monde arabe, vous avez, je crois, non seulement rendu compte de l'exposition, mais aussi fait une interview de son directeur, Dominique Baudis, que tout le monde connaît bien.
Oui, et Dominique Baudis, qui est passionné de l'Égypte.
Il a écrit lui-même, je crois, sur l'Égypte, non ?
Il a écrit sur l'Égypte, exactement. Il a écrit un livre qui s'appelle « Il faut tuer Chateaubriand », qui évoque l'expédition d'Égypte, ses conséquences, et qui le raconte sous forme d'un roman très palpitant.
« Il faut tuer Chateaubriand » de Dominique Baudis, publié chez Grasset, et même en livre de poche. Que peut-on dire encore un dernier mot, Isabelle Schmitt, sur ce magnifique numéro
beaucoup
qui vous fait rêver vraiment quand on aime l'Égypte.
On peut dire beaucoup de derniers mots. En fait, j'énumérerai peut-être juste les principales parties qui développent le point de vue de Jean Tullard. Il y a ensuite une évocation du général Kléber qui a été un des grands héros de cette expédition. Un papier magistral de Pierre-André Crémer sur l'invention de l'égyptologie et comment en fait l'expédition d'Égypte a permis de passer d'une égyptomanie, d'un goût orientaliste à une science vraiment de l'égyptologie, dont l'exemple le plus illustre est Champollion, qui en 1822 a déchiffré la pierre de Rosette. On a également le point de vue des Égyptiens évoqué par Thibaud Dary, puisque l'exposition présente le journal d'un Égyptien pendant l'occupation française. Et donc c'est un regard nouveau et très intéressant. Nous avons un portrait de Dominique Vivant-Denon, qui est un des grands savants et qui a beaucoup dessiné, ramené des croquis, et des œuvres d'art d'Égypte. Et puis, un reportage assez exceptionnel sur les traces de Bonaparte en Égypte, réalisé par Vincent Trémollet de
Villers. Aujourd'hui, alors.
Aujourd'hui, voilà. Qui s'est rendu sur tous les lieux presque où Bonaparte est passé, donc d'Alexandrie à Rosette, au Caire médiéval, et en rencontrant à chaque fois les acteurs de l'égyptologie d'aujourd'hui, donc à la fois des Égyptiens et des Français, et notamment l'archéologue Jean-Yves Empereur, auquel un portrait est consacré à la fin de ce numéro. Jean-Yves Empereur est l'archéologue français qui a redécouvert Alexandrie, toute la cité engloutie, les citernes, qui a fait le relevé de la ville nécropolis, qui malheureusement a disparu aujourd'hui à cause de travaux d'autoroute.
Hélas,
on le déplore. Et puis, enfin, une évocation de l'Orient de l'esprit. En fait, c'est le style oriental qui s'est imposé en France et en Europe après cette expédition d'Égypte. Une évocation de Patrick de Bézère, qui est critique d'art et qui est cet article particulièrement intéressant.
Alors bien sûr, on peut aller visiter l'exposition, mais si on en est empêché parce qu'on habite loin ou parce qu'on n'a pas la possibilité, eh bien je crois véritablement que ce numéro hors série du Figaro, Bonaparte en Égypte, feu et lumière, il faut se précipiter pour l'acheter parce que c'est un numéro exceptionnel. Merci Isabelle Schmitt de nous l'avoir présenté et à une
Merci
autre
Hélène.
Fois puisque Canal Académie et le Figaro hors série restent partenaires. À
Merci
bientôt.
Beaucoup.